bientôt à vos centres de recherche secrets en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
À nouveau ce matin, nous avons des nouvelles des fameux blousons noirs, des fameux jeunes gens. Et c'est notre ami Tommy Franklin qui nous en parle de Cannes. Allô, Tommy Franklin?
Allô, ici Cannes.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Ce doit être un effet de la crise et des angoisses qu'elle suscite. On a multiplié, tout au long de l'an dernier, les enquêtes et les recherches sociologiques sur l'attitude des Français envers la jeunesse de ce pays. Après d'autres publications, Le Monde titrait récemment sur 5 colonnes pour présenter un sondage Ipsos qu'il avait commandé. Il titrait sur cette question « Et si la France n'aimait pas ses jeunes ?» 63% des personnes interrogées jugeaient les jeunes égoïstes, 53% paresseux, 52% intolérants. Les jeunes n'étaient pas perçus comme disciplinés, mais comme révoltés par 70% des sondés. Alors qu'aucun mouvement important de lycéens et d'étudiants n'avait eu lieu depuis les grandes mobilisations de 2006 et 2008, alors que nul mouvement d'indignés n'a fait écho à ceux qu'on a constatés en Espagne, en Grèce ou en Israël. Ces inquiétudes sont-elles l'effet d'un allongement de l'espérance de vie, ou bien cette fracture générationnelle est-elle naturelle à toute société, quelle que soit sa démographie et quelles que soient les règles qui en régissent le fonctionnement ? Mon invité, Jean-Claude Schmitt, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur du groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval, a co-dirigé naguère un ouvrage important consacré à l'histoire des jeunes en Occident. En braquant avec lui notre attention surtout sur l'Antiquité et le Moyen-Âge, nous allons tâcher de discerner, d'âge en âge, ce que les comportements collectifs envers ce qu'on a appelé parfois le « péril jeune » ont pu connaître de variations et de pérennité. Bonne manière, je l'espère, de relativiser telle ou telle crispation contemporaine.
Le soleil fait éclore, cris joyeux et rythme sonore, et tout le long des grands chemins, cheveux au vent, main dans la main, la jeunesse, la jeunesse. La jeunesse aura toujours raison, c'est la sève qui se lève et pousse à chaque saison. Dans sa ronde vagabonde, en avant elle mène le monde. La jeunesse, éternelle floraison, la jeunesse aura toujours raison. Devant les machines, au champ sur la mer, à l'usine, travaillant sans jamais faiblir, les yeux fixés vers l'avenir. La jeunesse, aura toujours raison. C'est la sève qui se lève et pousse à chaque saison dans sa ronde. C'est de la vivre plus jolie, dans tous les arts, dans tous les sports, réunissant tous les efforts. La jeunesse aura toujours raison.
Jean-Claude Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre ensemble « La jeunesse aura toujours raison ». C'est une chanson de Scotto et Rodor qui est interprétée en 1947 par André Dassary, qui a cessé à ce moment-là d'interpréter comme il aimait bien le faire quelques années plus tôt. Maréchal, nous voilà. Si j'ai choisi cette chanson, c'est parce qu'elle me paraît prendre le contre-pied des sondages que j'évoquais tout à l'heure. Et nous sommes aussitôt placés devant l'ambivalence des regards que l'âge mûr et la vieillesse peuvent porter aux différentes époques sur la jeunesse.
Oui, cette ambivalence est constitutive de, je dirais, de la définition sociale de la jeunesse, quelle que soit l'époque, parce que c'est vrai dans l'Antiquité comme aujourd'hui. En même temps, les regards changent selon l'histoire, selon la période. L'après-guerre immédiat et aujourd'hui, ce sont deux périodes qui, de ce point de vue-là, sont bien différentes. La reconstruction, la jeunesse, effectivement, passant aussi démographiquement au premier plan, juste après la guerre, et aujourd'hui, une société vieillissante, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire, et qui, naturellement, donne un poids d'autant plus fort, même numériquement, aux personnes âgées, et qui regardent avec ambivalence, avec nostalgie d'une part, mais aussi avec une certaine aigreur, la jeunesse minoritaire, mais toujours présente, heureusement, et qui a toujours raison, aura toujours raison, parce que, par définition, l'avenir lui appartient. Ce qui est frappant aussi, c'est la référence au biologique. Dans la chanson « La sève qui remonte à chaque saison ». C'est une piste dans un essai de définition de la jeunesse, cette référence, cette comparaison avec les forces de la nature. Et en même temps, on sait très bien que ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire que tout le problème de la définition même de la jeunesse se pose pour les sociologues, se pose pour les historiens. Comment la définir? Les critères biologiques, les critères d'âge sont une indication, mais sont tout à fait insuffisants parce que à chaque société et à chaque époque, ces critères changent, sont valorisés autrement. Il y a les critères sociaux, d'organisation sociale de la jeunesse qui peuvent prendre, selon les époques, une importance plus ou moins grande. Il y a les critères de l'activité, du travail, de l'entrée dans le travail, etc. Mais on a beaucoup de mal à définir la jeunesse.
Et c'est ce que nous allons tâcher de voir, l'évolution des regards posés de la sorte, avant d'étudier ce qui oppose les regards positifs lorsque la jeunesse est glorifiée comme le rempart de la nation et les considérations négatives, désordre, déviance. Il faut que nous regardions ensemble, Jean-Claude Schmitt, en effet, comment cette construction culturelle, au fond, qu'est la jeunesse, a évolué depuis l'Antiquité. Nous apercevons d'emblée que, suivant les moments, les âges de la vie ont été dénombrés de façon très différente. 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans.
Oui, on a, dès l'Antiquité, et ensuite c'est transmis au Moyen-Âge, à l'époque moderne, et jusqu'au 19e siècle, en fait, si on regarde certaines gravures, par exemple, on a cette idée de découper la vie, mais pas seulement la vie, c'est un système symbolique. Les âges du monde et les âges de la vie, hein, les âges de l'humanité et les âges de l'individu se répondent en écho. Et donc, l'idée du découpage. Alors, certains vont plutôt réduire, disons, à 3 ou 4, et puis d'autres plutôt à 7 ou 6 ou 7. Voilà. Et bien 6 ou 7, c'est aussi la semaine, c'est les âges du monde, les jours de la création dans la Bible, etc.
Les 7 planètes aussi.
Et cette planète, naturellement, et puis les 7 vertus, et puis bien d'autres choses encore qui marchent selon le septenaire. Hein.
Mais Aristote, dans sa physique, distingue pour ce qu'il concerne 3 âges.
3 âges, voilà, ben ça c'est le minimum. Hein. Il faut bien découper un peu. 3 âges, donc disons une grande enfance, et puis un âge mûr, et puis la vieillesse. Mais bien sûr, on peut raffiner et trouver à ce moment-là des distinctions plus intéressantes entre, par exemple, l'infancia. Infance, l'enfant, c'est celui qui ne parle pas au sens étymologique. Donc, c'est vraiment le début. Puis, il y a le puer ou la puella, c'est-à-dire le petit garçon ou la petite fille. Et puis, il y a ensuite le jeune au sens propre. Mais le jeune, ça n'est pas qu'un âge, c'est aussi un statut social. Par exemple, au Moyen-Âge, on est jeune. « Juvenis », dit-on en latin, ou « Jovent » en langue vernaculaire, « jeune », tant qu'on n'est pas marié. Et on voit bien, on est sorti de l'enfance, mais on n'est pas encore véritablement établi dans la vie sociale, que ce soit le chevalier, que ce soit l'artisan, etc. Et donc, si on se marie tard, et cela arrive, eh bien, on reste jeune jusqu'à 40 ans, par exemple. Et ça a été un cas célèbre de Guillaume le Maréchal. Georges Duby avait consacré un très beau livre à ce personnage. Guillaume le Maréchal s'est marié à 40 ans. Et donc, il est resté ce jeune chevalier, jeune entre guillemets, jusqu'à 40 ans.
Je ne sais pas
si était vraiment âgé à l'époque.
Je ne sais pas s'il faut conseiller nos auditeurs cette manière de rester très jeune. Enfin, chacun se comportera comme il le souhaitera. Mais en tout cas, ce Moyen-Âge est plutôt organisé de quatre façons.
Ça dépend. Ce sont vraiment des systèmes théoriques. L'essentiel n'est pas là dans la vie réelle. Dans la vie courante, l'essentiel, ce sont les étapes ritualisées du passage d'un état à un autre. Et naturellement, le mariage est un moment essentiel.
Sur un sentier de vert printemps, plein de fleurs en papier, on va courir les petits enfants, on va trotter leurs pieds. Ils vont le long des ruisseaux, font bonjour aux oiseaux, ils se battent à coups de poing, tandis qu'on entend au loin, ding-dong, écoutez la cloche, enfants en galoche, aïe donc, la cloche a fait ding-dong, ding-dong, la cloche de l'école vous appelle Nicole. Gaston, la cloche a fait ding-dong. Il faut courir pour apprendre ses leçons et devenir de belles filles, de grands garçons. Ding-dong, écoutez la cloche ou gare aux taloches. Aïe donc, la cloche a fait ding-dong. Pour sa demande, le fiancé sue dans un col cassé, en jaquette, en souliers vernis. Il a l'air abruti, il bafouille devant papa, qui ne le comprend pas. Puis il dit, j'adore Madeleine. Aussitôt, tout s'enchaîne. Ding-dong, écoutez la cloche, le mariage est proche. Ding-dong, la cloche fait ding-dong. Ding-dong, la cloche du baptême, un enfant qu'on aime. Allons, les cloches fait ding-dong. Puis le temps passe, et l'on devient un homme sérieux, très sérieux. Et dans la classe, on se dit, bon, je suis pas trop vieux, non. Ding-dong, mais la vie va vite, la jeunesse vous quitte. Allons, la cloche a fait ding-dong. Un jour, on se sent rap-la-pla. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'entend plus bien d'une oreille. Et de l'autre, c'est pareil. Dans son fauteuil, on revoit ce qui fut autrefois. Premiers amours, doux frissons. C'est la fin de la chanson. Écoutez la cloche. La méchante cloche, la cloche a fait ding-dong. C'est la cloche funèbre, le glas des ténèbres. La cloche a fait ding-dong. Je vous reconnais, dit Saint-Pierre, vous êtes monsieur Durand. Voyons, qu'avez-vous fait sur la terre, la vie Durand? J'écoutais les cloches. Vous n'avez rien fait de moche? Moi? Non? Entrez! Mais entrez donc! Les cloches font et ding-dong!
C'était Ding-dong de Charles Trenet, 1945. Lui a choisi la division quadripartite.
Ou peut-être plus que ça, parce qu'il y a l'école, puis l'amour, le mariage, le premier enfant qui est baptisé. Ensuite, il y a la classe, donc le service militaire, et puis le vieux nostalgique, et enfin la mort avec Saint-Pierre. Ça
oui.
fait six.
Oui, bah, la mort, vous pouvez appeler ça un âge, si vous voulez, je vous abandonne cette idée. Moi, j'en ai trouvé quatre. Enfin, ça sera un désaccord entre nous qui va subsister. Je n'en serai pas trop chagrin, puisque la division en quatre, c'est aussi une manière de rejoindre les quatre éléments, pas seulement les saisons, l'air, le feu, la terre et l'eau, ou les quatre humeurs du corps, c'est-à-dire le sang, la bile rouge, la bile noire et le flegme au Moyen-Âge.
ces correspondances sont très importantes. Je voulais là vous contredire un peu, simplement pour montrer que
vous
ce sont libre. Des systèmes.
Vous
ce
êtes libre de le faire, je le dis hautement.
Et donc, on peut choisir, on peut les combiner, on peut, selon l'urgence, changer de référence. L'essentiel, c'est en effet d'avoir ce type de classification pour distinguer les États dans la société et en même temps leur donner sens par cette référence au cosmos tout entier. Et ceci a prévalu dans une très longue durée, comme je le disais tout à l'heure. Ce système est aussi perturbé par naturellement d'autres références et la question de la scansion de la vie est une chose importante. Aujourd'hui, nous scandons notre vie par les anniversaires. Il y a un anniversaire, par exemple, des empereurs dans l'Antiquité. Cela donne lieu à des sacrifices païens. L'Église a complètement refoulé, et avec succès dans ce cas, ces pratiques. Et ce n'est que beaucoup plus tard, à partir du XIIIe, XIVe siècle, notamment en Italie, qu'on voit réapparaître une certaine attention à, d'une part, la date de naissance des individus, qui pendant le Moyen-Âge était pendant très longtemps inconnu, complètement inconnu, même chez les grands.
En dépit du succès de l'astrologie et des horoscopes.
Oui, mais ça arrive plutôt plus tard. Certes, c'est connu, mais c'est surtout à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Et certainement l'astrologie, qui oblige à connaître le moment exact, même l'heure de la naissance, a eu un grand rôle dans le développement de cette pratique de l'anniversaire de la naissance. Car anniversaire, ça signifie autre chose au Moyen-Âge. C'est l'anniversaire de la mort. Par exemple, les saints ont fêté la mort, le martyre d'un saint. C'est ça, sa naissance véritable, c'est-à-dire l'entrée dans la vraie vie, c'est-à-dire l'au-delà, le paradis. Et pour les hommes ordinaires, c'est la mort dont on se souvient, parce que c'est ce jour-là qu'on doit prier pour eux, pour qu'en effet, ils finissent par arriver au paradis en sortant du purgatoire, et surtout et qu'ils échappent à l'enfer. Mais ce mot change. Et ce qui était la nativité, la natalité, prend le sens d'anniversaire au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire la célébration du jour de la naissance. Mais ça a été très long, entre le XIIIe et le XIXe siècle. Et pas du tout la même chose dans toutes les couches de la société. Au XVIe, XVIIe siècle, il y a une sorte de descente progressive. Au XIXe siècle, c'est la bourgeoisie qui, Georges Sand par exemple, qui célèbre les anniversaires dans la famille, mais pas les ouvriers. Et les chansons « Happy Birthday to you », etc., qui se sont diffusées sur la terre entière, sont des chansons tout à fait récentes.
Il y avait une tradition catholique de la fête qui se fondait sur celui des saints.
Les saints, voilà. Alors on peut en effet voir des espèces de recouvrements entre le baptême et la naissance. Ils tendent à se rapprocher parce qu'on a tendance à baptiser le plus vite possible après la naissance pour éviter la mort sans baptême. Il y a naturellement la fête du saint patron ou du saint du jour de la naissance. Voilà. Et tous ces systèmes se combinent à la fin du Moyen-Âge et puis on voit émerger cette préoccupation de la naissance. Et le document dont je suis parti, parce que c'est lui en fait qui m'a frappé, qui m'a mis sur la piste de cette question, c'est cette espèce d'autobiographie en images du grand financier de la banque Fugger d'Augsbourg au XVIe siècle, qui a joué un rôle considérable dans l'économie du temps. Et ce Matthäus Schwarz, à l'âge de 23 ans, a commencé une sorte de journal où il se peint selon ses costumes nouveaux qu'il fait faire au fur et à mesure que le temps passe. Et rétroactivement, il l'a fait faire le jour de son anniversaire de 23 ans, le 20 février 1520 exactement. Vous voyez, les dates sont importantes et sont mentionnées. Et il le fait rétroactivement, c'est-à-dire qu'il se demande quel est mon premier anniversaire. Et en fait, c'est sa naissance. Voilà. Et il se fait représenter encore dans le ventre de sa mère. Il dit, c'est ça, c'était mon premier costume. Dans cet ensemble de 137 images qui couvrent presque toute sa vie, depuis avant sa naissance jusqu'à très près de sa mort, il y a un très grand nombre d'occasions où c'est l'anniversaire de la naissance. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Il se fait peindre avec le costume qu'il revêt pour célébrer son anniversaire, parfois aussi pour aller à l'anniversaire d'un ami.
Est-ce qu'on peut dire, Jean-Claude Schmitt, que le protestantisme, en mettant en cause le culte des saints et en promouvant d'autres noms que ceux des saints de l'Église, a contribué à cette émergence d'une célébration profane de l'anniversaire ?
Alors, il est vrai, en effet, que le protestantisme détache du culte des saints et du lien même personnel que l'on peut avoir un saint personnel, un saint patron. C'est donc une hypothèse qu'il faut retenir, mais je ne pense pas qu'elle réponde à toutes les situations. À Augsbourg, chez Matthäus Schwarz, on était catholique et on était les serviteurs de l'empereur, Charles Quint, donc ultra-catholique. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, par exemple, au XVIIe siècle, le fameux journal de Samuel Pepys, qui est un grand bourgeois londonien, évidemment anglican, lui aussi, il note son anniversaire tous les ans et aussi l'anniversaire du roi, et il est protestant.
Et donc, cette coutume est désormais installée, et elle l'est à Charleville en 1870, quand Arthur Rimbaud écrit son célébrissime poème « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ».
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite étoile avec de doux frissons petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans se laisse griser, la sève et du champagne vous monte à la tête, on divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque, dans la clarté pâle d'un réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis, l'adoré un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs et de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
C'était un enregistrement public du 11 septembre 1966, Jacques Doyen lisant Rimbaud. Alors, Jean-Claude Schmitt, comme moi, vous avez noté au passage, j'ai vu votre sourcil se lever, le vers sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Là, on retrouve l'opposition des générations.
Tout à fait. Et le regard, qu'est-ce qui constitue la jeunesse? En fait, c'est évidemment les jeunes, par leur action, par ce qu'ils en disent, parce qu'ils chantent, etc., ou par leurs poèmes. Mais et c'est Rimbaud. Mais c'est aussi le regard des autres, c'est le regard de l'ordre public, c'est de la société et dans la famille de la génération précédente, les parents et surtout le père, avec son faux col effrayant.
Donc décidément, c'est le regard des classes plus âgées qui constitue l'adolescence en tant que telle. Vraiment, nous l'avons dit, une construction culturelle.
Heureusement, les jeunes se définissent eux-mêmes. Ça peut être dans la révolte, ça peut être dans la contestation, ça peut être dans le refus, etc. Donc il y a ce jeu dynamique entre les deux. Et on parle, par exemple, en effet, de la crise de l'adolescence. Voilà, ça c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est ce que c'est de l'ordre du regard de la société, des médecins, des psychologues. Ou bien est-ce que c'est aussi, et c'est sans doute cela aussi, l'affirmation de soi dans la famille et dans la société? Alors l'adolescence, c'est un autre mot. Et on peut se demander si ça a exactement le même sens. Les deux mots se trouvent dès l'Antiquité. En latin, adolescentia ou juventus existe. Adolescentia a un sens organique. C'est ce qui grandit. Ce qui grandit, c'est un sens quasi végétal. Mais ça n'est pas une catégorie psychologique ou médicale ou sociale ou scolaire comme on peut l'utiliser aujourd'hui. Et ça, c'est très neuf, en fait. Ça, c'est du 19e siècle.
Le mot reste, mais différemment habité, en somme.
Parce qu'on y a ajouté beaucoup de choses. On y a ajouté toute cette dimension, surtout psychologique. Et sans doute que l'initiateur de cette tradition, même si pour lui le mot n'est pas encore aussi essentiel, c'est Rousseau, c'est l'Émile. Et c'est donc lié au projet éducatif, à la fois de l'esprit et du corps, ce qui est nouveau, évidemment, en ce qui concerne Rousseau dans ce programme d'éducation de l'Émile.
Il écrit d'ailleurs « Nous naissons, pour ainsi dire, en deux fois. L'une pour exister et l'autre pour vivre. L'une pour l'espèce et l'autre pour le sexe. Comme le mugissement de la mer précède de loin la tempête, cette orageuse évolution s'annonce par le murmure des passions naissantes, une fermentation sourde avertie de l'approche du danger.
C'est sidérant, cette attention à ces pulsions physiologiques et psychologiques. Chez Rousseau, qui est vraiment tellement novateur, si on pense que Rousseau est aussi, on pourrait dire, l'inventeur de l'autobiographie moderne. Et c'est lié parce que le regard sur soi, ce regard intérieur sur soi, c'est aussi le regard qu'il porte sur les autres et justement sur le jeune amoureux. On ose dire ça, ce qui est quand même très neuf, hein, qui va prendre encore beaucoup de temps d'ailleurs pour s'imposer tout à fait, pour arriver à définir l'adolescence et puis la jeunesse comme ce moment défini aussi par la sexualité. Avec beaucoup de réticence, naturellement, d'occultation, y compris par les acteurs eux-mêmes, mais dans les journaux, dans les mémoires, par exemple, du 19e siècle.
On le voit bien, c'est une sexualité qui devient obsédante à force d'être tue.
D'où la psychanalyse.
Plus tard. Mais restons un instant à Rousseau et la période qui le précède. Au fond, l'absence de l'adolescence avant le 19e siècle frappe. Oui. Le Christ, vous le notez dans l'ouvrage que vous avez organisé sur les jeunes, le Christ, au fond, n'a jamais été jeune.
Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire dans les évangiles. Je trouve qu'on ne l'a pas vraiment remarqué. Enfin, on le sait, mais on ne le dit pas assez ou on n'en cherche pas assez les implications sociales et culturelles. C'est qu'on sait, quand on quitte le Christ enfant, la tradition dira qu'il a 12 ans. Bon, les évangiles ne parlent pas de 12 ans, mais il est cet enfant que l'on représente dans les manuscrits médiévaux, par exemple, vraiment en enfant, petit, glabre, etc., au milieu des vieillards. Là, on a le contraste maximum. Et puis, les parents arrivent et le cherchent partout. Et il dit, mais il leur reproche de les avoir cherchés. Déjà, quand même, une espèce de révolte. Mais sur ces entrefaites, il disparaît complètement. Et quand est-ce qu'on retrouve le Christ? Quand il entre, adulte, à 30 ans, dans Jérusalem, sur son âne. Et donc, entre-temps, un long silence, un silence. On ne sait pas, le Christ a une enfance, mais n'a pas de jeunesse. Ou d'adolescence, si vous voulez, ici.
Il est à noter que les évangiles apocryphes, d'ailleurs, ont cherché à combler cette lacune dans les récits de ce qu'on appelle les enfances du Christ.
Oui, tout à fait, les enfances du Christ, parce que ça manquait, en effet. Et on développe tout un légendaire de l'enfant à l'école, de l'enfant assez révolté, d'ailleurs, ou l'enfant qui fait des bêtises aussi. Jésus transforme ses petits copains, qui sont juifs, évidemment, comme lui, d'ailleurs, en petits cochons, ce qui est évidemment assez provocateur
dans les relations
entre christianisme et judaïsme.
Bonne blague, mais ensuite, il leur redonne quand même.
Et puis, bien sûr, il est rétabli dans leur...
L'apparence de petits garçons.
L'apparence de leur vie, de leur corps, de petits garçons.
Alors je voudrais que nous en venions, Jean-Claude Schmitt, à partir de cette définition mouvante de l'adolescence, de la jeunesse, à une réflexion sur ce souci récurrent de société en société, d'âge en âge, comment encadrer les jeunes, c'est-à-dire la question des rites de socialisation depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Et pour ouvrir ce moment de notre conversation, je vais vous faire entendre une interview de Jean Rostand, le fils d'Edmond Rostand, un célèbre biologiste, qui en 1961 vous propose ses réflexions, vous allez voir, assez étranges sur le rock'n'roll.
Tout ce que je vais vous dire sera fait uniquement d'après ce que j'ai pu lire dans les journaux. Or, il me paraît que ces crises d'hystérie collective comportent un certain infantilisme. Il me semble qu'il y a là, en effet, une sorte de libération à la fois d'instincts puérils et d'instincts animaux. Je peux vous répondre un petit peu au nom de la morale biologique. Eh bien, l'un de ces impératifs, l'un des principaux impératifs de cette morale biologique, c'est qu'un homme doit viser à être un homme dans toute l'acception du mot, c'est-à-dire un adulte et un être qui surmonte en lui l'animalité. Donc, à ce point de vue, je pense que le rock'n'roll est un peu contraire à la morale biologique et qu'il y a une certaine amoralité à se comporter comme font tous ces jeunes gens, à la fois en bête et en enfant. Mais ceci dit, je vous dirai qu'il ne faut peut-être pas accuser trop ces jeunes gens. Je voudrais savoir si leur famille, si la société a fait ce qu'il fallait pour créer en eux ces freins qui leur eussent permis de résister à ces instincts puérils, à ces instincts animaux, c'est-à-dire de ne pas s'abandonner à cette régression que me paraîtrait le rock'n'roll. Ces jeunes gens sont certainement des insatisfaits, des gens qui n'ont été intéressés à rien, captivés par rien. Est-il donc tellement étonnant qu'ils fassent cette régression? Je pense qu'il faudrait surtout s'attaquer aux causes plutôt que s'attaquer à l'effet. Or, je crois que c'est toute la société qu'il faudrait transformer, je répète, pour que les jeunes gens ne tombent pas dans cette sorte de piège infantile et bestial que représente le rock'n'roll.
Bigre, voilà un regard assez surprenant. La moralité biologique, ces jeunes gens qui se rapprochent de la bête. Alors Jean-Claude Schmitt, vous êtes surpris par
ça? Oui, je suis assommé, à vrai dire.
Courage, réveillez-vous.
Ça donne envie d'être très jeune et de réagir fortement.
Faites-le.
Oui, ça mériterait une exégèse. Cette notion de morale biologique, évidemment, ne tient pas debout et est extrêmement dangereuse, je pense. Mais ce qui est important aussi, cette réduction au puéril ou à l'animal, c'est-à-dire l'impossibilité finalement de définir cette jeunesse, mais simplement de la condamner a priori, parler même de régression, hein, ce qui est un terme psychanalytique, de refuser de la voir, enfin de la prendre pour ce qu'elle est, pour tout de suite la réduire à moins que rien, c'est-à-dire l'enfant avant les jeunes, et apparemment il y a beaucoup de mépris là-dedans, et puis l'animal, voilà, c'est beaucoup de mépris, et puis c'est beaucoup d'ignorance devant les réalités historiques ou sociologiques qui ont toujours donné leur place à la jeunesse dans la société à travers la ritualisation des passages. Si on définit la jeunesse comme un moment de passage, un moment transitoire, et dans le fond, c'est ça qui la définit, et il ne faut pas s'arrêter à des barrières d'âge ou de critères trop étroits. Mais ce qui est important, c'est cette ritualisation qui existe dans toutes les sociétés, les sociétés qu'étudient les anthropologues, et puis les sociétés qu'étudient les historiens, à commencer par les sociétés antiques et puis les sociétés médiévales. Il y a toutes sortes de formes de ritualisation, de passage, en somme, de l'enfance à la vie adulte, de changement d'un milieu qui est le milieu familial, notamment le milieu maternel, vers le milieu des hommes, pour ce qui est des garçons, vers le mariage, car c'est la formation des filles, en fait, un peu partout, et orientée vers la fonction qu'on attend des filles, c'est-à-dire d'être mère et de reproduire la société. Voilà ce qui caractérise la jeunesse. Alors, dans la société antique, par exemple, il y a naturellement, selon les cités grecques, par exemple, de grandes différences, mais on retrouve ce que Platon a appelé la paideia, c'est-à-dire la formation à la fois de l'esprit et du corps à travers des exercices gymniques, la gymnastique, la chasse aussi très importante, qui est une initiation à l'espace de la cité. On va parcourir la cité, une initiation aux fonctions militaires. Ce sont les soldats qui vont défendre la cité, ils doivent se former à ce moment-là. C'est aussi une initiation amoureuse et notamment homosexuel, parce que le citoyen est bisexuel, mais de façon justement rituelle, dans la définition même de sa citoyenneté, il se doit d'être, s'il est jeune, d'un éromène qui va dépendre d'un éraste qui va l'initier. Voilà. Mais il ne faut pas le juger dans les termes d'aujourd'hui, il faut, enfin, l'apprécier dans les termes d'aujourd'hui, il faut le comprendre comme un rituel civique.
L'idée est vraiment d'imaginer des pratiques propre à donner aux jeunes gens une idée très, très particulière de leur rôle de futur citoyen. L'éphébie se comprend comme cela, les éphèbes.
Les éphèbes, exactement, ce sont les jeunes guerriers qui sont entraînés par une vie très dure, qu'on pourrait évidemment rapprocher du service militaire. Alors ceci concerne naturellement les jeunes gens. Seuls les jeunes gens deviennent des citoyens. Les filles, c'est autre chose. Mais elles ont leur propre rituel, notamment dans le sanctuaire de Broron, pour les jeunes athéniennes, où elles font l'ours. L'ours, c'est un rituel. Elles jouent les ours. Elles sont ainsi initiées à certains jeux de femmes, aussi à une gymnastique, à la danse. Elles ont une formation physique aussi. Elles ne doivent pas apparaître comme des garçons manqués. Donc il s'agit bien de bien faire la distinction entre les femmes et les hommes. Et ce à quoi elles sont destinées, c'est d'être épouses de citoyens.
Et il y a d'ailleurs toute une version mythologique de l'initiation des jeunes. Je pense au rôle, par exemple, du centaure Chiron, qui avait été chargé de former le jeune Achille, après que celui-là avait été abandonné par sa mère, la déesse Thétis. Et il y a eu beaucoup d'élèves de Chiron, Castor et Pollux, Thésée, Pelée et beaucoup d'autres. C'est vraiment lui qui sert ce genre de passage.
Oui, dans toutes les sociétés, naturellement, il y a des mythes qui mettent en scène les jeunes de l'origine. Alors, c'est Romulus et Rémus. Bon, on connaît naturellement leur enfance, la naissance, la louve qui les allaite. Mais ensuite, il y a le meurtre. Et les bandes de jeunes alors, jouent un rôle réel alors, de socialisation et de formation entre soi, en somme, dans le groupe des jeunes. À Rome, par exemple, il y a ces bandes qui jouent un rôle important dans les rituels urbains, dans les Lupercalia, c'est-à-dire ils jouent les loups qui viennent hanter la cité, tourner dans la ville, frapper les femmes avec des lanières faites de cuir de bouc. Évidemment, une référence ici à la sexualité sauvage. Donc les jeunes incarnent cette sauvagerie qui entre dans la ville, mais qui vient la régénérer et en même temps lui donner une vigueur fécondante. Ceci est vrai à Rome, hein, on le voit très bien.
Rémus et Romulus accueillent beaucoup d'esclaves, de rebelles, d'anciens conspirateurs, oui, des esclaves fugitifs. Il y a là, sous couvert du droit d'asile, en fait, un accueil à beaucoup de déviants et de marginaux, déjà.
Oui, on peut dire que l'intégration de la sauvagerie, de l'extérieur, etc., fait toujours partie du procès de civilisation. Romulus, c'est le héros de l'enceinte, c'est celui qui crée la ville. Hein. Il tue son frère, qui est au contraire la sauvagerie, l'incarnation de la sauvagerie.
Et qui devient l'emblème de l'exclusion, Rémus.
Exactement, voilà.
Alors, vous évoquez, Jean-Claude Schmitt, le rôle évidemment d'encadrement et de socialisation de l'activité guerrière. Cela a duré toujours. Écoutez ce que, en juillet 1946, disait un certain colonel Lecoq sur le rôle à cet égard du service militaire. Le ministre des Armées était Edmond Michelet.
Il ne s'agit pas seulement de méthodes nouvelles d'instruction, mais d'esprit. L'idée directrice qui guide M. Michelet, ministre des Armées et le commandement, et que le temps du service militaire ne doit pas constituer une parenthèse dans la vie du jeune Français, mais au contraire, une période aérée, vivifiante, épanouissante, qui prépare et arme non seulement pour les heures de bataille, mais aussi et d'abord pour la vie de chaque jour, pour toute la vie d'homme. C'est à la lumière de ce principe fondamental qu'il faut comprendre l'appel saisonnier dont je viens de vous parler à l'instant. En quelques semaines, à Frileuse, Linas Montlhéry, L'Éloge, Moutsich, Meucon, Bois-l'Évêque et en tant d'autres endroits de France et d'Afrique du Nord, des camps sont sortis de terre. Nos recrues, dans un cadre par lui-même formateur, commencent à y être groupées par sections. La section est en effet leur unité de vie et d'instruction. Dans ce cadre, où l'action de l'officier est directe, où chacun se connaît à fond, les jeunes sont dans les conditions optimales pour recevoir la formation technique, physique et morale dont ils ont besoin. Là se forgent les amitiés qu'on retrouve entre camarades, entre chefs et subordonnés, tant au combat que dans la vie. C'est bien la vie collective, mais à une échelle qui n'écrase pas la personnalité.
Vos jeunes gens du Moyen-Âge, Claude Schmitt, auraient été surpris par le rôle de l'armée, du service militaire, dans le passage de l'enfance à l'âge adulte, avec l'adoubement des chevaliers, par exemple?
Oui, le camp de Frileuse, je l'ai connu, j'y ai fait mes classes. Voilà, j'adore.
Témoignage direct.
Les propos du colonel Lecoq.
Cela va lester votre comparaison avec le Moyen-Âge.
Voilà. Alors, c'est quand même différent, évidemment. Ce qui manque, c'est l'État, c'est l'armée en tant que telle. Et ça, ce sont des créations récentes. Hein. C'est au cours du 18e, 19e siècle que se forme cette armée dont on voit le résultat dans les propos de ce colonel. Au Moyen-Âge, le chevalier, donc dans un certain milieu, naturellement, est formé à la guerre à laquelle il est destiné, en même temps, pas seulement à la guerre, en même temps à toute une vie de cour, ce qu'on appelle la courtoisie. Et ces deux formations sont extrêmement liées.
Chevalerie-courtoisie.
Chevalerie-courtoisie. Et on le voit dans les romans de chevalerie, justement, où se développe ce qu'on appelle l'amour courtois. Et la prouesse militaire est naturellement une manière de faire valoir aussi sa prouesse en matière d'amour, en matière de courtoisie devant la dame, qui est la femme, l'épouse du seigneur ou du roi.
D'ailleurs, le grand affrontement entre Roland et Olivier se termine par le mariage de Roland avec la sœur d'Olivier. C'est ainsi que Roland épousa la belle Aude, nous dit Victor Hugo.
Voilà. Mais c'est vrai de la chanson de gestes et puis des romans courtois, naturellement, où l'on trouve ce triangle, n'est-ce pas, du roi, de la reine et du chevalier.
Le roi Arthur, au fond, c'est l'adoubeur par excellence. Dans le Chrétien de Troyes nous dit dans le conte du Graal, alors le seigneur se baisse pour lui attacher, au chevalier, pour lui attacher l'éperon au pied droit, puis le seigneur prend l'épée, la lui attache à la ceinture et lui donne un baiser, disant qu'avec l'épée, il lui a conféré l'ordre le plus élevé que Dieu ait établi et inspiré, c'est l'ordre de chevalerie qui doit être sans vilenie. Chevalier, on cesse d'être adolescent, on devient un homme.
Oui, et sans vilenie, ça veut dire en fait sans macule de servage, d'homme dépendant. Le chevalier est un libre, mais qui se met au service, bien sûr, d'un seigneur par le rituel vassalique. Là, il s'agit du rituel de l'adoubement qui s'est transformé petit à petit, qui est un rituel guerrier qui est de plus en plus christianisé, avec notamment la veillée à l'église devant l'épée posée sur l'autel, puis ensuite la remise de l'épée, des éperons, de l'écu, le geste rituel de la collée, une sorte d'épreuve aussi pour le jeune chevalier, pour bien montrer qu'il est prêt à affronter la violence. Et ensuite, alors, commence cette vie itinérante, cette quête, c'est le mot de quête, hein, la quête du chevalier qui doit trouver l'épouse. Au bout du compte, l'épouse et le fief, c'est-à-dire s'établir, en somme, dans un château et jouer à ce moment-là son rôle une fois stabilisé, une fois intégré dans sa fonction d'adulte. Il n'est plus jeune à ce moment-là, mais cette jeunesse peut durer longtemps.
Alors qu'appelle-t-on les abbayes de jeunesse qui peut-être peuvent, d'une certaine façon, sans forcer le trait, évoquer les casernes du colonel Lecoq?
Oui, elles évoquent les casernes. Pour moi, elles évoquent davantage les bandes de jeunes de l'Antiquité, ces jeunes loups hein, qui hantent la cité et commettent certaines violences. Il s'agit d'une grande institution de socialisation des jeunes dans les villes déjà dès la fin du Moyen-Âge. Cela a été bien montré pour Dijon, par exemple, dès la fin du Moyen-Âge, et puis ensuite à travers toute l'Europe moderne jusqu'à, disons, les campagnes du 19e ou même du 20e siècle. C'est-à-dire l'organisation des jeunes qui prennent en main un certain nombre de fonctions de la communauté, par exemple l'organisation des fêtes, mais aussi la régulation du marché matrimonial. Et ceci est très important. C'est-à-dire à la fois le contrôle des mœurs, de disposition, en somme, du marché matrimonial, de qui va épouser qui, et cela sous le regard de la communauté, sous le regard des pères. D'où, par exemple, l'importance du charivari. Le charivari qu'organise l'abbaye de jeunesse ou le groupe des jeunes, enfin les noms changent beaucoup, d'un lieu à l'autre, consiste à sanctionner un mariage, très souvent, il y a d'autres fonctions, mais surtout à sanctionner les mariages mal appareillés, en quelque sorte. Ou, par exemple, un homme vieux et riche qui se remarie. Les remariages sont fréquents, étant donné aussi la mortalité des femmes en couche.
Qui se remarie avec une jeune femme.
Avec une jeune.
Décalage.
Ce jeune, il l'apprend forcément, et il a un avantage, il est plus riche. Il est plus puissant. Et il la prend, il la prélève sur le marché matrimonial espéré, donc les possibilités espérées par les jeunes. Alors les jeunes, à ce moment-là, se mobilisent, font un charivari la nuit, un tintamarre effroyable, jettent toutes sortes d'ordures sur sa maison, etc. Non pas en réalité pour empêcher le mariage, mais pour obtenir une compensation.
Et je vais vous faire entendre, vous me direz si l'écho vous paraît fort. Je vais faire écouter une archive radiophonique qui évoque des jeunes gens participant à une rave party à Boifle en Normandie en mai 1997, leurs propos et ensuite les réactions d'anciens.
Je suis venue ici avec mon copain qui va souvent en rave et voilà, il me fait découvrir ça pour la première fois et je trouve ça très sympa, il y a vraiment une ambiance, moi j'aime bien quoi. Il y a plein de gens qui se sont installés dans leur tente, qui sont tranquilles au soleil et qui ont tous à peu près le même style et qui sont tout cool quoi. Il y a plusieurs groupes et on peut aller de groupe en groupe et écouter de la musique, voilà. Il y en a certains qui viennent pour se défoncer, pour s'amuser parce qu'ils aiment se défoncer, c'est clair. Il y en a qui viennent là, qui regardent comme ça pour la première fois pouvoir commencer et voilà quoi. Mais bon, c'est un rassemblement de gens qui écoutent à peu près le même genre de musique et puis qui sont à peu près dans les mêmes délires.
C'est la musique, c'est ça, c'est tout quoi. Les drogues, ça, c'est à part quoi. Tu vas dans un concert de reggae, hard ou n'importe quoi, il y aura toujours de la drogue quoi.
C'est pareil pour le rock'n'roll en 70. C'était pareil, ils ont dit ouais, c'était drogué le rock'n'roll parce que c'était nouveau et la techno c'est pareil. Dans 20 ans, ce sera autre chose. Et ils diront ouais, dans 20 ans, ils diront ouais, c'est un rassemblement de drogués. Tiens, il y a les flics.
C'est affreux. Hein. C'est toujours, toujours, toujours la même musique, de tam 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 tam, tout le temps, tout le temps. C'est affreux comme truc. Il y en a qui viennent de Hollande, il y en a qui viennent d'Angleterre, d'Allemagne. Je ne comprends pas pourquoi ils s'ensemblent comme ça. Ici, c'est pour boire, c'est pas nécessaire qu'ils aillent en temps comme ça. Ils sont avachis, là, de machin. C'est vraiment avec la musique, avec la force de musique qu'il y a, ils sont complètement abrutis. Moi, j'entends ça pendant une heure à côté, je deviens dingue, c'est sûr.
Toujours la même musique, Jean-Claude Schmitt, toujours peut-être aussi les mêmes propos des classes âgées. Au XIVe siècle, on voyait déjà les prélats et les moralistes qui reprochaient à la jeunesse du temps turbulence, le bruit, les folles dépenses, les excès vestimentaires, la débauche, l'irrespect, les immoralités. En toutes sortes, là, il y a vraiment une concordance des temps.
Oui, au XIVe siècle, les élites, et notamment les chanoines, possédaient le grand bordel, la grande maison. On était dans une autre époque où la prostitution faisait partie de cette socialisation des jeunes et était parfaitement tolérée. Donc les époques changent et les jugements changent. Et en même temps, c'est vrai, on a des lignes de continuité. La fête du village traditionnel, bien sûr, avait sa place dans le village, dans la communauté, mais en même temps donnait lieu à des excès et surtout à des jugements méfiants, voire réprobateurs, du style de ceux qu'on vient d'entendre. Inversement, une jeune fille l'a dit, il y a de l'ambiance. Hein, il y a de l'ambiance, et je crois que c'est ça aussi qu'on cherchait dans la fête traditionnelle.
Nous parlions du charivari, on peut parler aussi du carnaval.
Le carnaval, bien sûr, et qui a sa place dans le temps, hein, pas seulement. Le charivari est un événement en fonction qui peut changer. Le carnaval, c'est bien sûr un moment marquant et essentiel dans le rythme annuel de l'année. C'est le passage donc, du temps. Le carnaval, c'est le temps gras, la débauche ici de viande grasse, de saucisses, de viande de porc, avant le jeûne. Qui prélude à la fête de Pâques, à la fête de la résurrection, qui sera de nouveau la fête et la joie. Les jeunes, l'abbaye de jeunesse, le groupe des jeunes, est chargé d'organiser le carnaval et là encore de mettre en scène cette espèce de domptage des forces sauvages. Hein, à travers les masques, à travers les travestissements en ours ou en autres animaux, dompter, canaliser cette violence, cette vigueur dans la fête avant la normalisation de ce grand temps de 40 jours du carême.
C'est encore une façon pour les classes d'âge plus avancées de se protéger contre une certaine peur qui est constante à l'égard de la turbulence, de l'exubérance de la jeunesse.
Je crois qu'on le voit bien dans les entretiens qu'on a entendus entre Rostand et ce voisin d'une partie, une rêve partie. C'est finalement un peu les mêmes thèmes qui reviennent. Le désordre, le bruit, la violence, le gâchis, l'animalité, etc. C'est vraiment ne pas faire justice à tout ce qu'il y a de positif et en effet la jeunesse aura toujours raison.
Et on fait un pas de plus et on s'aperçoit que ces bandes que vous évoquez à propos de Rémus et Romulus déjà dans aux origines mythiques de Rome, elles ont constamment effrayé le bourgeois. Il est vrai que dans certains cas ils ont provoqué des mouvements violents dont on a pu légitimement se préoccuper. Mais enfin, écoutez ce reportage de Tommy Franklin à Cannes. En août 1959, c'est à propos de l'arrivée dans cette ville d'un groupe de blousons noirs venus de Sartrouville dans la région parisienne.
Et à nouveau, ce matin, nous avons des nouvelles des fameux blousons noirs, des fameux jeunes gens. Et c'est notre ami Tommy Franklin qui nous en parle de Cannes. Allô, Tommy Franklin ?
Allô, ici Cannes. Après Paris et Bandol, Cannes a été atteinte par la gangrène des blousons noirs, dans la nuit de samedi à dimanche notamment. Armés de matraques, de ceinturons améliorés, c'est-à-dire modifiés 59 avec des ornements métalliques, ils s'attaquèrent d'abord à de paisibles danseurs qui participaient à un bal populaire. Non contents de ce méfait, ils assommèrent ensuite, sans raison aucune, le jeune Michel Vautier, 18 ans, en vacances à Cannes, et blessèrent grièvement un gardien de la paix. Dispersés par le service d'ordre, ils revinrent pour saccager, toujours sur les allées, les stands qui dispensent bonbons et jus de fruits aux estivants. La bagarre s'étendit bientôt à d'autres secteurs de la ville, et la police, quelque peu en difficulté, fut assistée par des passants indignés d'une telle atteinte à la tranquillité publique. Hier soir, tentative de représailles par des éléments cannois. Tentative sans lendemain, pourquoi ? Il paraît que les agresseurs du samedi faisaient partie d'une bande de Sartrouville qui s'était logée dans un camping de Mandelieu. Renseignements pris à la gendarmerie, ces groupes ne restent qu'une nuit dans le même local, c'est d'ailleurs leur intérêt, avant que de continuer leur néfaste voyage pour porter le trouble en d'autres lieux. Ce matin, dans Cannes, menacé par l'orage, pas un tricheur, pas un teddy boy, pas un blouson noir à l'horizon. Toutefois, une dizaine de ces rognures de nervis a pu être arrêtée, et à l'heure où je vous parle, ce joyeux groupe a déjà été présenté au procureur de la République. Moyenne d'âge, 18 ans. 18 ans d'imbécilité, 18 ans de mauvais films, 18 ans de parenté irresponsable, et tous les espoirs sont permis pour un avenir brillant. Mais oui, maman, mais oui, papa. Ici, Tommy Franklin à Cannes, Radiodiffusion, Télévision Française.
Voilà, voilà, Jean-Claude Schmitt, un reportage qui a de la force. Et on peut observer d'ailleurs que le vocabulaire en soi est un sujet d'intérêt. Il parle de gangrène, il parle de rognure, de nervis. Vous avez beaucoup étudié l'évolution des mots concernant la jeunesse à travers les âges.
Oui, par exemple, au 19e siècle, pour ce genre de phénomène qui existait bien sûr, on parlait des apaches. C'est d'ailleurs, même au 20e siècle, des choses que l'on trouve, et c'est assez surprenant, dans l'Allemagne nazie. En dépit de l'ordre totalitaire, de la répression, de toute déviance, les références de bandes n'ont pas, évidemment, pas la même publicité qu'aujourd'hui, ou la même liberté d'action, mais des bandes souterraines, des bandes contestataires qui se retrouvent, enfin, ou des groupes qui se retrouvent pour danser, par exemple, pour entendre la musique anglaise, etc., font référence aussi aux Indiens. Et c'est très, très étonnant, c'est-à-dire cette espèce de modèle, d'idéal du sauvage, en somme, mais qui est, à ce moment-là, approprié par les jeunes eux-mêmes.
On peut dater exactement l'apparition du mot apache, puisque cela remonte au procès de mandat contre l'ECA, vous savez, la lutte sanglante pour une fille, Casque d'or, qui était à l'origine du film de Becker. Un obscur greffier se serait écrié au cours de l'interrogatoire d'une jeune terreur: mais ce sont des procédés d'apaches, ce qui impliquait une certaine idée, effectivement, des Indiens d'Amérique. Et au fond, les jeunes s'étaient reconnus eux-mêmes dans cette image qui avait été colportée. Ils ont, comme souvent, détourné cette critique au profit de leur propre notoriété, de l'image qu'ils se faisaient d'eux-mêmes. Les blousons noirs, c'est un peu la même chose.
C'est un peu la même chose, et ce qui me frappe aussi, c'est qu'on n'en parle plus aujourd'hui. C'est-à-dire que le vocabulaire a encore à changer. Les blousons noirs, c'est une certaine période. C'est les années 50, c'est les années 60, et puis les qualificatifs changent. Mais d'une certaine façon, le phénomène est toujours là.
Il y a une question qui me paraît importante, c'est le rôle de l'entrée sur le marché du travail comme fin de l'adolescence et comme moyen, au fond, de rassurer les classes plus âgées sur le comportement de ces jeunes gens.
Oui.
C'est vrai au Moyen-Âge, c'est vrai aujourd'hui.
Oui, c'est vrai au Moyen-Âge, évidemment, dans le cadre des métiers, de ce qu'on appelle les corporations, mais le mot n'est pas vraiment médiéval. Mais c'est vrai, évidemment, surtout au XIXe siècle, avec ce passage de l'atelier villageois, l'atelier domestique, à l'usine. Et là, naturellement, l'apprentissage, l'entrée dans le monde du travail est un marqueur très fort du passage de la jeunesse à l'âge adulte, mûr, à l'établissement, au mariage, etc., selon les cas, peut trouver des formes différentes, en particulier du compagnonnage qui existe encore, qui va petit à petit disparaître. Le compagnonnage qui était cette période transitoire du voyage formateur, professionnel, pendant plusieurs années. Agricole Perdiguier a écrit un mémoire très, très célèbre au XIXe siècle sur ces années de compagnonnage et d'itinérance à travers la France. Donc il y a ce phénomène très important. L'autre phénomène du XIXe siècle, après la Révolution, l'âge légal de l'entrée dans la vie politique, c'est-à-dire le citoyen électeur. On observe un abaissement progressif de l'âge auquel on peut voter. L'âge de la majorité étant 21 ans, en fait, on ne peut voter qu'à partir de 28 ans ou puis à partir de 25 ans, bien avant de faire coïncider l'âge électoral, en somme, avec l'âge légal de la majorité.
D'ailleurs, 18 ans, autant de Giscard d'Estaing.
Et voilà. Et donc, on a encore rabaissé. Et ceci est un phénomène certainement majeur dans la longue durée des réorganisations de la définition sociale de la jeunesse par rapport aussi à ces réalités biologiques, à ces réalités physiologiques.
Alors, Jean-Claude Schmitt, compte tenu du rôle majeur qu'a eu le service militaire pendant des décennies dans... Le passage des adolescents à l'âge adulte, il est notable qu'il ait été supprimé au début de ce 21e siècle.
Oui, c'est une grande rupture. Je ne suis pas absolument certain qu'on ait réfléchi à toutes les implications de cette suppression, qui sans doute s'imposait pour différentes raisons. Le service militaire ne remplissait plus les fonctions qu'il avait eues avant ou après la guerre de 14, par exemple. Mais il est évident qu'il y avait là un marqueur et une forme, idéalement en tout cas, de rapprochement de classe sociale, de région, etc., qui jouait un grand rôle dans la formation d'une certaine homogénéité de la jeunesse d'un pays. Bon, les temps ont changé, donc il fallait trouver une autre solution. Je souhaiterais personnellement que l'on prenne vraiment au sérieux ce qui a été annoncé, mais pas vraiment appliqué, qui est l'idée d'un service civique. Pourquoi pas ? Mais il faudrait qu'il soit universel, qu'il soit équitable. Mais ce serait certainement une manière de retrouver un peu de sens à la fois dans ce parcours individuel des personnes, mais aussi dans la place de la jeunesse dans la société.
Merci beaucoup, merci. Je rappelle le titre de votre livre majeur, du livre que vous avez dirigé avec Giovanni Levi, « Histoire des jeunes en Occident », qui est paru en 1996 aux éditions du Seuil et qu'on devrait bien reprendre en livre de poche. Et aussi, Jean-Claude Schmitt, votre ouvrage beaucoup plus récent, 2009 aux éditions Arquet, « L'invention de l'anniversaire ». Vous avez débusqué un sujet tout à fait neuf. Nous n'avons pas parlé des représentations de la jeunesse dans la peinture, qui serait d'ailleurs intéressante à pister avec, en fait, la petite taille attribuée aux enfants à côté de leurs parents. Vous avez publié « Le corps des images », essai au pluriel, sur la culture visuelle du Moyen-Âge, Gallimard 2002. Vous y montrez en particulier au passage que, assez curieusement pour nous, les adolescents, les enfants, les adolescents sont représentés dans la peinture très souvent en plus petite taille que les adultes.
Oui, il y a la taille. Pour les garçons, évidemment, c'est aussi la pilosité qui est très importante. Et puis une sorte de carnation aussi, que l'image souvent arrive à mettre en valeur. Carnation rose, claire, etc., qui contraste avec les visages adultes. Puis il y a des images qui sont en soi classificatrices. Par exemple, les trois rois mages. Le roi mage le plus proche de l'enfant Jésus, qui adore, qui se met à genoux, c'est un vieillard. Derrière lui, un homme mûr. Et enfin, derrière, un jeune. Ce jeune, il a un aspect très différent par son vêtement, par son apparence. Parfois, c'est un noir aussi, ce qui montre aussi l'altérité. Hein, le jeune comme autre par rapport aux autres.
Je rappelle que chacun pourra trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés et que vous pourrez également écouter, réécouter et balado-diffuser, comme on dit au Québec, cette émission. On dit plutôt podcaster chez nous. Samedi prochain, nous parlerons des abeilles, les abeilles qu'on nous dit être très malheureuses par les temps qui courent. Alors nous allons les considérer dans la très longue durée, dans leur relation avec l'homme. Et mon invité sera naturellement Michel Pastoureau.
Tu m'avais dit dès ma plus tendre enfance, il y a mal à qui ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration précieuse de Jeanne Guéroux et de Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec Alexandre Dang à la prise de son, Jacotte Degrange et Jérôme Bonnetin à la discothèque, et pour les Archivina, Catherine Louis.
T'es plus dans le coup, papa.
Et dans quelques instants, vous allez retrouver Dominique Rousset pour l'économie en question.
T'es plus dans le coup, papa, tu m'avais dit, ce garçon est volage. Fais attention, il va te faire souffrir. Pourtant... sourire. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa.